Mais d'abord, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La bataille sur les retraites, plus que jamais à la une ce matin. La contestation s'installe dans la durée, titre Le Figaro. Le bras de fer se durcit selon Les Échos. Qui va craquer, demande l'opinion. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est avec nous, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Dans un instant, vous nous direz comment le gouvernement encaisse le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Près d'1 300 000 manifestants hier selon le ministère de l'Intérieur, 2,5 millions selon l'intersyndicale. Prochain appel à la mobilisation les 7 et 11 février prochains, des dates savamment choisies, comme l'explique Gérard Mardinet, il est secrétaire général CFE-CGC.
Ce sont deux dates complémentaires, donc une date en semaine qui va permettre à tous les salariés, retraités et jeunes qui peuvent se mobiliser en semaine de venir à cette manifestation, et une date le samedi qui va permettre aux gens pour qui faire grève pour venir manifester en semaine devient difficile vu les problèmes de pouvoir d'achat qu'on connaît, typiquement des assistantes maternelles, etc., un certain nombre de métiers, et qui pourront eux se mobiliser plus facilement le samedi. Donc c'est bien une complémentarité.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est avec nous. Arthur, on entend ces syndicats qui sont déterminés. Ces deux premières mobilisations n'étaient pour eux finalement que des coups de semonce et le succès semble leur donner des ailes. Est-ce que le gouvernement est inquiet, Arthur ?
Oui, il y a des signaux très préoccupants. D'abord, plus de monde dans la rue, vous l'avez dit, mais moins de grévistes. C'est bien le signe que la colère ne concerne pas uniquement l'écume syndicale habituée aux mouvements sociaux. On a vu hier de nombreuses personnes manifester pour la première fois depuis longtemps. Et donc dans les cortèges, davantage de profils non syndiqués et peu ou pas politisés, avec des banderoles, des slogans et des revendications exprimant une colère générale qui dépasse le cadre de la réforme des retraites. La mobilisation cristallise autour d'elle les difficultés du moment, comme l'inflation et les rancœurs contre le président. Dans cette configuration difficile pour Emmanuel Macron d'apporter des réponses politiques, il n'a quasiment aucune marge de manœuvre. Les deux seules portes de sortie, c'est-à-dire retirer la réforme ou bouger sur les grandes lignes, ne sont absolument pas envisagées car elles précipiteraient le second quinquennat dans l'inertie. L'idée, c'est donc de tenir au maximum en misant sur un débouché non pas dans la rue mais au Parlement. Or, c'est loin d'être acquis avec la majorité relative, sachant que tout passage en force jetterait de l'huile sur le feu.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Notez qu'hier, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a validé le deuxième article du texte qui concerne l'emploi des seniors. Les députés ont jusqu'à ce soir pour terminer l'examen du projet de loi et ses 5 000 amendements. Lundi, les débats s'ouvriront dans l'hémicycle avec le vote d'une motion référendaire du Rassemblement national.
Dans les cortèges hier, il y avait beaucoup de jeunes actifs.
Oui, à peine entrés dans le monde du travail et déjà inquiets pour la fin de leur carrière. Ils craignent de ne pas pouvoir couler, de vieux jours paisibles. La solution pour certains, c'est simple, anticiper et commencer dès maintenant à épargner. Caroline Baudry.
Après quelques années de travail comme Théophile, l'angoisse d'une retraite insuffisante, l'ingénieur parisien de 28 ans anticipe déjà. Il verse 300 euros par mois dans un plan épargne-retraite et une assurance vie.
Aujourd'hui, je prends mes dispositions personnelles vraiment dans le sens où, au vu du nombre d'années que je dois travailler, ce sera du coup forcément les 67 ans où je pourrai toucher ma retraite à taux plein. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus on va augmenter l'âge. Enfin, j'aurais sûrement envie de la prendre plus tôt.
Corentin, 29 ans, a aussi sorti la calculatrice. Il capitalise dans l'investissement locatif.
Un placement en loi Pinel dans un appartement dans le sud pour pouvoir ne pas me poser de questions et ne pas me regarder les prix quand je serai à la retraite. J'aurais peut-être pas envie de continuer jusqu'à mes 70, 75 ans pour toucher le maximum de la retraite. On a tous le droit aussi de profiter un peu de ce qu'on a construit pendant toutes ces années de travail.
Même pas trentenaire, il pense déjà à ses vieux jours, compléter d'environ 50% sa pension de retraite en revendant dans 10 ans ce deux pièces en bord de mer.
Caroline Baudry.
Voilà, ça s'appelle la prévoyance. Il est 8h06 sur Europe 1. Nous sommes le 1er février. Beaucoup de changements comme en début de chaque mois.
Oui, le taux d'intérêt du livret A passe de 2 à 3%. La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur avec une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. La facture d'électricité augmente de 15%.
Oui, pour le tarif réglementé à EDF.
Oui, tout à fait. Et enfin, les tarifs des péages augmentent, eux, de 4,75% en moyenne. Mais Vinci Autoroute annonce bloquer les prix sur la majorité des petits trajets pour alléger le coût du déplacement entre votre domicile et votre travail.
Et puis ce matin, Système U annonce le lancement du panier anti-inflation. La ministre des PME, Olivier Grégoire, l'a réclamé lundi matin sur Europe 1. Il sera mis en place pour une durée indéterminée. Venons-en maintenant à ces chiffres édifiants dévoilés par le ministère de l'Intérieur hier partout en France. La délinquance progresse.
Oui, dans tous les territoires, les violences sont en forte hausse. On est revenu finalement aux chiffres d'avant Covid. David Montagnier, tous les voyants sont au rouge.
Effectivement, à commencer par les cambriolages, ils explosent en Bretagne et en Pays de Loire, plus 40% dans cet département du Grand Ouest, et ça concerne aussi bien les résidences principales que les maisons secondaires. Viennent ensuite les homicides, deuxième année consécutive de hausse. 69 de plus en un an pour un total de 948 victimes. Elle retrouve des niveaux historiques jamais atteints depuis 30 ans. Les meurtres et assassinats progressent en particulier dans les Outre-mer. 1000 infractions par jour pour les coups et blessures. En sachant que ces chiffres sont basés sur les dépôts de plaintes, seulement 37% des victimes signalent les faits dans un commissariat ou en gendarmerie. À noter enfin une hausse des violences intrafamiliales, mais qui est due à une meilleure prise en compte des plaintes et à la parole qui se libère. C'est en tout cas les propos et les termes du gouvernement.
David, ces chiffres sont une mauvaise nouvelle pour l'exécutif. On le sait, la sécurité, c'est un peu le talon d'Achille du gouvernement et du président de la République.
Oui, malgré la communication de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur demande régulièrement aux forces de l'ordre une mobilisation sans faille. La place Beauvau reconnaît une situation difficile. On parle souvent d'une société plus violente. Se pose aussi la question de la réponse pénale, assez dissuasive ou non. Une lueur d'espoir tout de même. La lutte anti-drogue affiche un léger mieux.
David Montagnier du service police-justice d'Europe 1.
La France toujours au chevet de l'Ukraine. 12 nouveaux canons César vont être envoyés à Kiev.
Et au total, Paris aura fourni 30 de ces pièces d'artillerie haut de gamme auxquelles il faut ajouter les 19 canons César promis par le Danemark.
Et puis en football, c'est la fin aujourd'hui du mercato d'hiver. C'est la fin, pardon, à minuit. Les clubs ne peuvent plus recruter de joueurs avant cet été.
Ouais, mercato qui a tourné au fiasco pour le Paris Saint-Germain. Il n'a pas réussi à recruter le Marocain Hakim Ziyech. Transfert qui a capoté à cause de son club, Chelsea. Les Londoniens, sans doute trop occupés à réaliser le transfert record d'Enzo Fernandez. 121 millions d'euros. Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour à tous.
121 millions, c'est une somme colossale, comme bien souvent d'ailleurs pour les clubs britanniques qui dépensent sans compter, il faut le dire.
Ah oui, il y a l'Angleterre et les autres. Cet hiver, les clubs britanniques ont dépensé 500 millions d'euros en transfert. Et c'est le club londonien de Chelsea qui a fait sauter la banque. 300 millions dépensés en à peine un mois. Le prix de 3 Airbus A320 flambant neuf. Alors les Blues ont notamment recruté le grand espoir, vous l'avez dit, du foot mondial, l'Argentin Enzo Fernandez, arraché au Benfica Lisbonne pour plus de 120 millions d'euros. C'est un record en Angleterre, autant que la durée du contrat proposé. 8 ans en 2031, à la fin de son bail à Londres, Enzo Fernandez aura 30 ans. Même les derniers du championnat anglais ont plus de moyens que la plupart des clubs français. La Première Ligue dispose d'une enveloppe stratosphérique de 4 milliards d'euros, 5 fois plus que la Ligue 1. Seul le PSG fait exception, sauf que le club de la capitale, vous l'avez dit aussi, n'a pas recruté de joueurs cet hiver. Alors si la pandémie est loin derrière l'Angleterre, elle n'est pas encore totalement digérée en France. La Ligue 1 a évité de peu la catastrophe après le fiasco de l'ancien diffuseur Mediapro sauvé par Amazon. Cela dit, même si les clubs anglais sont des super riches, tous ne pourront pas participer à la lucrative Ligue des Champions. Seulement 4 clubs s'y qualifient par an. Or Liverpool et Chelsea, justement englués en fond de classement, pourraient en être privés la saison prochaine.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et puis à la page ciné, c'est la grosse sortie de la semaine, assez sévèrement critiquée par la presse ce matin. Le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
Un budget record, 65 millions d'euros, ce qui en fait le 9e film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Il faut dire que les Gaulois du Derzo et Goscinny font généralement recette. Et ce qu'on aime chez nos Gaulois, partout à Tis, c'est bien sûr leur affection pour le sanglier, leur passion pour les potions magiques. Mais qui étaient vraiment les Gaulois? C'est le tuto de la rédaction, il est signé Nina Droff.
Tout d'abord, le Gaulois est Gaulois pour les Romains. Eux se désignent comme des Celtes. Ce n'est pas un peuple uni, mais plutôt des centaines de petites tribus indépendantes installées dans toute l'Europe de l'Ouest depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et contrairement au cliché, leur mode de vie était tout aussi développé que celui des Grecs ou des Romains. Ils étaient instruits, surtout dans le domaine de l'astrologie et de l'agriculture. Ce sont même les Gaulois, Celtes donc, qui ont inventé l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse. Ils ne taillent pas de menhirs, mais façonnent plutôt des armes et des bijoux de grande qualité et tissent des vêtements raffinés en lin très prisé sur les marchés de Rome. Question, tape-t-il sur les Romains et se délecte-t-il de sangliers? Non, mais il y a quand même une chose sur laquelle la BD a raison. Les Gaulois adorent les banquets. Ces festins publics permettent d'honorer des personnages politiques et de partager un moment de communion avec toute la tribu.
Le tuto de la rédaction par Nina Droff aujourd'hui, par Tatis.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal La Falbala Balade l'info. Vos rendez-vous dans la prochaine demi-heure, vos signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot va nous parler de la célèbre Marie Kondo. Gaspard Proust sera là également pour débriefer l'interview de l'invité de Sonia Mabrouk. Dans un instant, la députée Sandrine Rousseau. À tout de suite.